J'aimerais partager avec vous un texte de l'Écriture que j'ai lu en réunion de prière il y a quelques semaines. Et avant de partir, Michel a dit « Oh, ça serait bien que tu prêches dessus. » C'est bon, comme il n'est pas là. C'est un texte du livre de Zacharie. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament et une vision qu'il a au chapitre 3. Les huit premiers chapitres sont des chapitres consacrés à des visions. Le huitième chapitre est un rétablissement proclamé et annoncé à Jérusalem. En ces temps-ci, je pense que je ne sais pas comment font les habitants d'Israël, mais je leur conseillerais de lire le prophète Zacharie pour retrouver de la paix. Et puis, le chapitre 9, c'est un texte à la fois poétique, mais violent sur la victoire à la fois des plans de Dieu et la défaite des nations. Mais j'ai envie de vous lire ce matin un texte un peu particulier dans les premières visions, la quatrième de Zacharie, ce prophète, est une vision quand même assez glorieuse. Alors, il me fit voir, quand il est dit « il », c'est Dieu. Donc, il me fit voir, chapitre 3, le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout, à sa droite, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan !» Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent le turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici. Je fais venir mon serviteur, le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il est à sept yeux. Sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel des armées, et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Waouh ! Je ne sais pas si vous connaissiez ce texte, si vous l'avez lu. Il y a du souffle, il y a de l'épique, il y a de la gloire, il y a de la victoire dans ces quelques lignes. Alors, lisant ce passage, j'avais étudié il y a de nombreuses années, plusieurs décennies, le livre de Zacharie avec un de mes professeurs, notamment de dogmatique et d'éthique, dogmatique et doctrine, et il m'avait sensibilisé à ce fait, c'est que lire l'Écriture, c'est être confronté au centre de l'Écriture, et le centre de l'Écriture, c'est le Christ et la rédemption. Quiconque cherche dans l'Écriture d'autres raisons de se réjouir ou de vivre des choses avec Dieu, eh bien, va se fourvoyer. Le centre de l'Écriture, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, c'est la rédemption que Dieu accorde au monde dans la personne de Jésus-Christ. Et Zacharie, c'est un prophète particulier. Je sais qu'on me dit souvent qu'il y a les grands et les petits prophètes, mais je pense qu'il n'y a pas de grands et petits prophètes, il y a des hommes qui parlent au nom de Dieu à un temps précis. Et Zacharie était contemporain d'un autre prophète qui s'appelle Agée. Et son message à Zacharie couvre une période qui va, alors prenez des notes parce qu'il y a une interrogation écrite après, c'est une période qui va de novembre 520 à décembre 518. C'est précis, hein, hein. J'y étais pas, hein. Je dis ça pour les plus jeunes qui pensent que j'étais du temps de Zacharie, non. Non, non, c'est parce qu'on a des indications historiques dans le livre au chapitre 1, verset 1, et on sait à quelle époque Zacharie a commencé son ministère. Donc novembre 520 à décembre 518. Et la première partie donc, du livre est consacrée à 8 visions très différentes, des visions qui sont écrites dans un style assez dru, assez sec, à la fois lyrique et sobre. C'est un discours et un hébreu assez particulier que celui de Zacharie, qui était sacrificateur et prophète. Il avait les deux rôles à cette époque-là, ce qui n'est pas courant. Et ces visions décrivent la nuit de l'avenir. En ce moment, les Français se posent la question si on est dans la nuit, si la nuit va se prolonger, si le jour va se lever. On ne sait pas. Ben lui, il a des visions qui décrivent la nuit de l'avenir, mais transpercées par l'apparition de l'ange de l'Éternel. Vous avez entendu dans ce chapitre 3 plusieurs mentions de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, pour à la fois les Juifs, mais aussi pour les théologiens et ceux, les exégètes chrétiens. L'ange de l'Éternel, c'est une annonce de Jésus-Christ avant son incarnation. Quand vous voyez la formulation « l'ange de l'Éternel », pour les Juifs, c'est le Messie qui est présent dans le ciel et qui va venir. Et pour les chrétiens, bah, c'est Christ avant son incarnation. Alors le principal message de Zacharie, c'est celui du retour à Dieu. C'est-à-dire la conversion, comment Israël peut revenir à Dieu, se convertir. Et au chapitre 1, on lit ceci dans la parole que Dieu adresse à Zacharie pour le faire entrer dans son service très jeune. Il a 18 ans à peu près, on sait qu'il a 18 ans, toujours à cause du nombre des années, du règne du roi sous lequel il est intervenu. Et quand il commence à recevoir des paroles de Dieu, Dieu lui dit « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, revenez à moi et je reviendrai à vous. » Chapitre 1, verset 3. Il annonce également la venue du Messie, cet ange de l'Éternel. Le Messie, c'est l'arrivée d'une nouvelle ère où Dieu accorde son salut à tous ceux qui viennent auprès de lui pour lui demander, et sans favoritisme et sans distinction. Zacharie annonce, prévoit la venue du Sauveur du monde, Jésus, au nom de qui tous les hommes reçoivent le salut. Zacharie et Ésaïe sont des prophètes messianiques importants dans le judaïsme, parce qu'il y a plein de détails sur la venue de ce Messie. Et nous qui avons vu spirituellement la réponse à ces textes dans la personne de Christ, nous ne pouvons que nous réjouir. Alors, un petit peu d'histoire, cours d'histoire. Oui, ça va, Kaylig? T'aimes l'histoire? Ça va. Alors, pour comprendre le contexte du livre de Zacharie, il faut faire juste, on va faire en 5 minutes 150 ans. C'est du rapide, hein. En 586, il y a un roi qui est babylonien, vous le connaissez tous, c'est Nebuchadnezzar. On le connaît davantage sous le nom de Nabucodonosor. Et si vous écoutez un peu de musique classique, l'air traditionnel de Verdi sur le cœur des esclaves. La 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 la. Ça réveille des souvenirs, même s'ils chantent mal. Le cœur des esclaves, c'est tout simplement les esclaves juifs emportés par Nebuchadnezzar à Babylone. Il a rasé, pris tous les notables et les a emmenés du côté de Babylone. Donc en 586, Nebuchadnezzar prend Jérusalem, brûle le temple, déporte tous les notables du pays, on le lit dans le deuxième livre des rois au chapitre 24, et il fait une razzia de tous les trésors du temple, de la royauté, mais surtout tous les objets cultuels sont emportés à Babylone. Après la conquête de Babylone, quelque temps après, par les Perses, il y a un roi perse qui arrive à vaincre Babylone, il conquiert Babylone, et ce roi s'appelle Cyrus. Et Cyrus, lui, intervient pour permettre aux Juifs de retourner dans leur pays. Nebuchadnezzar les emmène, les déporte, prend les trésors de Jérusalem, et puis vous avez quelques décennies plus tard, Cyrus, le roi de Perse, qui en 538 va permettre au peuple juif, par un décret spécial, de retourner à Jérusalem avec les trésors du temple pour relever le temple et la ville. 538, 586, Nebuchadnezzar, 538, Cyrus, dont Esdras et Néhémie diront qu'il est comme le Messie de Dieu. Il n'est pas du tout Messie ni juif, mais il va intervenir sous l'action de Dieu pour faire revenir le peuple à Jérusalem. Mais il va le faire pour toutes les religions. Hein. Ceci dit, le premier décret que fait Cyrus, c'est général. Il était dans une démarche qui contrecarrait la politique inhumaine des Babyloniens. Et il a dit, moi, je vais avoir une autre manière de faire. Et dans un contexte de clémence, il a donné à toutes les religions la possibilité d'exercer leur culte. C'était la loi de la laïcité 1905 avant l'heure. Tout le monde a le droit d'exercer son culte. C'est ça, hein, la loi 1905. Contrairement à ce que certains pensent en disant, la loi séparation de l'Église et de l'État, c'est ne pas exercer. Non, c'est permettre à tout le monde d'exercer son culte, où qu'il soit, à titre privé, mais tout le monde peut exercer son culte. Et là, Cyrus fait cette chose-là. Et dans ce contexte, il permet, en 538, aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Et 18 ans plus tard, vous avez Zacharie, qui, en 520, va prophétiser pendant de nombreuses années, de 520 à 486, donc ça fait une bonne période. Il va prophétiser parce que il y a eu le temple qui était commencé à reconstruire, puis finalement ça s'est arrêté du fait des plaintes, de la jalousie des tribus autour. Et il y a un autre roi qui s'appelle Darius, qui a succédé à Cyrus, et Darius va chercher, il se dit, c'est arrêté là-bas, il y a des juifs qui se plaignent, parce qu'ils disent, mais on nous avait dit qu'il y avait un édit par Cyrus, etc., et puis finalement, ça ne fonctionne pas, on n'a pas les moyens, on a de l'opposition. Alors Darius va dire, on va rechercher ce fameux décret, et il retrouve l'édit de Cyrus qui avait autorisé la reconstruction de Jérusalem et le retour des Juifs dans leur pays. Et les travaux recommencent la deuxième année du roi Darius. C'est ce que nous dit le début du livre de Zacharie. Alors, moi j'aime bien ces histoires-là parce que ça dit une chose. C'est que l'histoire des hommes, elle est à la fois le fruit de leurs désirs, de leurs envies, de leurs décisions, les nations font un peu ce qu'elles veulent, etc. Mais quelque part, Dieu n'est jamais éloigné de l'histoire des hommes. La lecture du livre de Zacharie et les éléments historiques que nous avons juste évoqués ont ceci de particulier, qui nous parle de deux réalités particulières. Une qui est sur la terre et une qui est dans le ciel. Le texte que nous avons lu, c'est, on voit le souverain sacrificateur Josué, qui est normalement à Jérusalem, qui doit réinstaurer le culte, etc. Et Zacharie a cette vision de Josué dans le ciel, devant Dieu, avec Satan à sa droite, qui l'accuse et qui dit à Dieu, allez, vas-y, élimine-le, fais-le partir. Tu vois, il est tout sale, il n'est pas beau. Comment peut-il être souverain sacrificateur? Et puis, il voit la réaction de Dieu et de l'ange de l'Éternel. Puis en même temps, il y a la réalité simultanée au niveau des hommes d'un roi Nebuchadnezzar qui emporte Israël en déportation, d'un roi Cyrus qui fait un décret pour les renvoyer, d'un roi Darius qui dit « mais c'est quoi cette histoire de reconstruction ?» qui retrouve le décret et qui dit « mais oui, donc ils ont le droit, etc. » Vous savez quoi ? L'histoire des hommes, elle n'est pas que dépendante des hommes. Elle est dépendante aussi des plans et de la volonté de Dieu. Dimanche dernier, ou la semaine d'avant, j'étais un petit peu secoué par le résultat des élections en France. J'étais un petit peu... Je ne vais pas afficher mes opinions politiques, hein, ni vous donner des orientations de vote, mais moi, en tout cas, j'étais perturbé. Et pendant quelques heures, j'étais pas bien. Alors, bon, j'étais pas bien parce que moi, je suis pas français d'origine. Je suis devenu français à l'âge de 18 ans. Il y a des discours qui me font mal. Et je parlais de ça avec mon fils qui disait « Oui, je comprends que ça te touche. Moi aussi, ça me touche. » Je dis « Non, mon fils, ça ne te touche pas de la même manière. Toi, tu es français. » Bon, en plus, il est suisse. Il a une carte de secours. Il habite en France, mais si jamais il y a des problèmes, « Oh, ouais, mais je suis joker, je suis suisse. » Je dis « Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai, pendant 18 ans, j'ai été étranger dans le pays où je vivais. » Et ça m'a perturbé, ce qui s'est passé en France. Puis en relisant ce texte-là, je me dis « Mais pourquoi je m'inquiète ? Quelle que soit l'histoire des hommes, c'est Dieu qui est souverain. Et sa volonté s'accomplira. Elle s'accomplira pour Israël et elle s'accomplira pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Parce que là où les hommes croient qu'ils peuvent construire, bâtir et faire ce qu'ils veulent, ils sont sans le savoir soumis au plan et à la volonté de Dieu. Nebuchadnezzar a éradiqué Israël en se disant « ça y est, c'est réglé ». La volonté de Dieu s'accomplit quand même par rapport à cette nation qui, même si aujourd'hui elle n'est pas dans le désir de vivre les plans de Dieu, dans la majorité des cas, un jour Israël reviendra dans les plans de Dieu. Qu'Israël le veuille ou pas. Mais à un moment donné, ils seront obligés de reconnaître Christ, de voir le Messie et de redevenir le peuple qui annonce le salut aux nations. Ça s'accomplira. Et la preuve, le retour, la recréation d'Israël, alors que personne ne pensait que ça viendrait un jour, montre que les plans de Dieu s'accompliront. La volonté de Dieu s'accomplit. Et ça me fait penser au Notre Père. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. J'aime beaucoup cette formulation du Notre Père. C'est la prière que Christ... Ce qui est dans le ciel, eh bien que ce soit de la même nature sur la terre. Ta volonté là-haut, elle s'accomplira en bas. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Cyrus, qui a été appelé le Messie de Dieu alors qu'il était un roi perse et étranger, est conduit par Dieu pour que Josué, ce fameux souverain sacrificateur, et Zorobabel retourne à Jérusalem avec, alors, pas les deux mains dans les poches, ils sont retournés à Jérusalem avec tout le trésor, tous les ustensiles du culte qui avaient été raflés par Nebuchadnezzar quelques décennies auparavant. Quand Dieu fait les choses, il les fait parfaitement. Quand le peuple, sous la conduite de Moïse, avaient quitté l'Égypte, ils étaient repartis avec les Égyptiens qui étaient très contents, vu les 10 plaies qu'ils venaient de subir, de leur donner de l'or, de l'argent, des affaires, disant « Allez-y, allez-y, partez, on vous en prie !» Quand la volonté de Dieu s'accomplit, elle est parfaite. En fait, le livre de Zacharie parle à la fois du visible et de l'invisible. Ça, c'est merveilleux. Quand le chapitre 3 commence, il est dit « Il me fit voir ». C'est-à-dire que Zacharie, il est en bas, Et il a un réseau Wi-Fi, excusez-moi du peu. Moi, j'ai du mal à avoir le réseau Wi-Fi du premier étage jusqu'à mon bureau, au rez-de-chaussée. Mais là, lui, il est au rez-de-chaussée et il voit ce qui se passe dans le ciel. C'est pas génial, ça ? Est-ce que vous avez conscience que le Saint-Esprit vous donne accès au mystère de Dieu ? Pas besoin d'abonnement, pas de défaillance de réseau, personne qui vient vous parasiter votre réseau à vous, il est à vous, connexion directe. Eh bien, c'est ce que vit Zacharie. Il dit, Dieu me fit voir Josué. C'est-à-dire qu'il est en bas et là, tout à coup, il voit Josué, le souverain sacrificateur, et il le voit debout devant l'ange de l'Éternel. Comme je le disais, l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, c'est le Messie à venir. L'ange de l'Éternel, c'est une formulation spécifique. Et pour nous, bah, nous, c'est le Messie, oui, mais c'est Christ, avant son incarnation. Donc il voit l'ange de l'Éternel, le Messie, et il y a Satan qui est à côté de Josué. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Parce que Satan, au verset 1, il est dit, il se tenait à la droite de Josué en disant, je l'accuse, regarde-le, il est imparfait, comment pourrait-il être juste dans ta présence sainte ? Satan est quand même infuté. Il met en avant la sainteté de Dieu et la saleté de Josué en tant qu'homme pour dire, tu peux pas supporter ça, Seigneur ! Hein, Dieu, tu ne peux pas supporter l'imperfection de cet homme, de cette femme, de Josué. Non, je l'accuse d'être imparfait. Et vous savez quoi ? Satan joue le même rôle et le même jeu aujourd'hui. Et parfois, dans nos âmes et dans nos cœurs, nous le croyons. Nous croyons que notre imperfection, que notre péché ne peut pas nous donner accès à la présence de Dieu. C'est cela ce que dit ce texte-là. Et que dit l'ange de l'Éternel ? Que l'Éternel te réprime, c'est-à-dire, sors de là. Et d'ailleurs, à la suite de cet ordre-là, Satan disparaît. C'est étonnant comme Satan est dans l'incapacité de résister à la volonté de Dieu. Et parfois dans nos vies, nous tardons à invoquer la réalité du salut, et nous nous laissons embobiner par les paroles de l'adversaire qui dit « voilà ce que tu es ». Là, il est dit que Josué était couvert de vêtements sales. Ouais. André Chouraki, je regardais ce qu'il en était dans sa traduction, il dit « il était avec une saleté excrémentielle ». Ça vous dit quelque chose ? Et en fait, quand on lit l'hébreu, en fait, la traduction, c'est « il était dans une attitude, dans un fonctionnement totalement obscène ». C'est la traduction de l'hébreu. « Repoussante et obscène », c'est vous dire s'il était sale. Hein ? Ça m'est arrivé, j'ai travaillé pendant 12 ans avec des SDF. Et je devais les recevoir au moins une fois par semaine chacun. J'en avais une cinquantaine. Et je me souviens qu'il y en avait certains. Je m'étais donné comme règle, je le dis souvent, de leur serrer la main parce que je trouvais que c'était les accueillir dans leur humanité. Mais alors, il y en avait quelques-uns. C'était un exercice difficile. On voyait les bêtes courir, hein, dans la barbe, dans les cheveux, etc. Et je serrais la main, je dis bonjour, allez, vas-y, rentre dans mon bureau. Puis après, une fois qu'il était parti, j'allais me laver les mains. Il n'y avait pas encore les règles d'hygiène, mais Josué, il est dans cette situation-là devant la sainteté de Dieu. Ouais. C'est une réalité. Ce que nous sommes, notre nature pécheresse, la mort qui est en nous, nous rend inacceptables, non présentables dans la présence de Dieu. la difficulté de nos générations, de notre monde aujourd'hui, c'est une difficulté qui est liée à une conscience diminuée du péché dans notre vie et de notre nature pécheresse. On se trouve très bien. C'est pour ça que, comme on n'est pas si mal que ça, on n'a pas tant besoin du salut dans notre monde. Mais la réalité, elle est là. Nul ne peut se présenter devant le Père sans être purifié. Il est recouvert d'une pourriture excrémentielle. Il est obscène dans ce qu'il est, Josué. Oui, mais lorsque Dieu parle, lui parle, il dit ceci, « Est-ce que ce n'est pas un tison arraché au feu ?» C'est-à-dire, il ne vaut rien, il n'a aucune valeur, etc. Et il est même pire que cela, mais il est arraché au feu par l'application de ma grâce sur sa vie. Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais. Je te revais d'habits de fête. » Cette vision me fait penser à d'autres passages de l'Écriture dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, est-il dit dans l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile, nous invitera, est semblable à un maître qui invite les uns et les autres à la noce, et puis, après avoir invité des gens qui ne viennent pas, il y en a qui rentrent, etc. Et puis quand le maître de maison rentre pour voir qui est rentré à l'invitation, il y en a un qui est là et qui n'a pas revêtu les vêtements de noce qui sont fournis par le maître. Il est venu et dit, bon, non, moi je viens comme ça. Bon, hein? Et le maître dira, mettez-le dehors. Parce que j'avais prévu une robe pour lui, des vêtements propres, des vêtements de fête. Mais il n'a pas part à ma fête. Parce qu'il ne s'est pas conformé à la règle qui est celle-ci. J'enlèverai tes vêtements sales et je te couvrirai. Là, maintenant, c'est ma grâce pour toi. Lorsque nous lisons ce texte-là, nous entendons la voix de Dieu qui s'adresse à Satan et qui lui dit, voilà, il est, je tiens à lui, il est la prunelle de mes yeux. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, et toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Alors, serviteur, le germe, c'est quoi cette histoire encore ? Mon serviteur, le germe. Le germe, en hébreu, c'est ce rejeton qui va sortir d'une terre assoiffée. Et ce germe-là, c'est toujours un mot qui désigne le Messie. C'est quelque chose qui n'est pas glorieux. Un germe, c'est la vie à minima. C'est pas le Messie glorieux qui vient avec ses armées célestes. Non, c'est un germe qui va venir. Ce germe-là, si tu le reconnais, si tu vois dans cette figure du serviteur de Dieu, cet enfant qui est né à Bethléem et qui est le germe du salut au milieu des hommes, alors tu ouvres les yeux et tu découvres le salut. Et au verset 7 et 8, il dit eh bien que ils sont... Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. C'est-à-dire, celui qui touche à quelqu'un qui appartient à Dieu, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Waouh ! On peut se dire, oui, je suis sale, je ne suis pas juste, j'ai plein de défauts, d'incapacités, de choses, j'ai vécu plein d'échecs, j'ai fait des erreurs, ceci, cela. Mais celui qui te touche, si tu as mis ta confiance dans le Fils de Dieu, dans le Messie, dans le germe qui est le salut de Dieu, eh bien, touche à l'œil, à la prunelle de l'œil de Dieu. Moi, je trouve qu'il y a là, dans cette parole, quelque chose qui nous permet de nous reconstruire. Israël a pu se dire à un moment donné, oui, on est merveilleux, on est les préférés, on est les chouchous de Dieu. Et puis, ils se sont écartés, éloignés, été emmenés en déportation, puis sont revenus, puis il y a eu de l'adversité, etc. Et certainement que pour Israël, aujourd'hui encore, il y a un sentiment, mais qu'est-ce qu'on est au milieu de ce monde ? Ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. Mais je suis. L'adversaire, Satan, ne veut pas me toucher parce que je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Vous retrouvez ça au chapitre 2 et au verset 7 et 8. Je serai pour elle, pour Jérusalem, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, ça c'est Israël. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela je viendrai à la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. C'est pas merveilleux ? Mais ce qui est vrai pour Israël l'est aussi pour chacun d'entre nous dans cette nouvelle alliance dont nous sommes les bénéficiaires en Jésus-Christ. Sauve-toi de ton Babylone. Sauve-toi de ton esclavage. Sépare-toi. Retourne là où est ta place parce qu'après ce que tu as vécu, viendra la gloire. Waouh ! Je crois dans les plans de Dieu. Quel que soit le résultat des élections ici sur cette terre, je crois, je suis convaincu que la volonté de Dieu s'accomplira. Je ne sais pas comment, mais je crois que viendra la gloire et que je suis intouchable dans le sens où l'adversaire ne peut plus me toucher parce que j'appartiens à Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Nous aussi, on peut parfois entendre la voix de l'Esprit qui dit à Satan, « Il est à moi, elle est à moi, n'y touche pas, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. » Donc, et dans Romains, l'apôtre Paul dira d'une manière différente, au chapitre 8, verset 34, « Qui va les condamner ? Qui va le condamner ? La condamner ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. » J'aime beaucoup cette phrase. Paul, on a l'impression qu'il dit, bon, Christ est mort, donc on ne peut pas les... Ah oui, mais en plus, il est ressuscité. Ce qui fait qu'ils ne sont pas non plus maintenant touchables par l'adversaire. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire que de la même manière que l'ange de l'Éternel intercédait pour Josué devant Satan et devant l'Éternel, eh bien, Christ intercède aujourd'hui. Moi, j'ai un avocat dans le ciel. Ça, c'est là-haut. Et comme au ciel sur la terre, cet avocat dit, tu ne touches pas à Jean-Marc. Il est à moi. Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que dit. Et je crois que Dieu et l'ange de l'Éternel dit la même chose pour vous. C'est-à-dire que l'adversaire n'a plus aucun droit. Lorsque l'iniquité est enlevée, l'ange de l'Éternel ordonne et dit, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais. Et on met sur sa tête un turban, c'était le turban qu'on mettait sur la tête du souverain sacrificateur. Je vous rappelle que Josué, c'est le souverain sacrificateur. Il est sorti de Babylone, il est arrivé, mais il a encore besoin de vivre cette réalité du salut. Est-ce que cette réalité-là, nous en sommes aussi dépositaires dans notre foi ? Je suis sacrificateur du Dieu vivant. C'est ce que dit l'Écriture. Est-ce que tu es sacrificateur ? Est-ce que tu as conscience que tu es revêtu ? Les gitans, leur chant préféré, leur cantique préféré, vous savez lequel c'est ? Les gitans chrétiens. Un vêtement blanc. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. la sainte joie, le vrai bonheur. Les évangéliques disaient, c'est... ce cantique-là, il l'appelait le cantique du dentiste. Ouais. Un vêtement blanc, une couronne. Non, mais c'était pour les gitans, ce cantique-là, c'est cela. C'est Josué qui est revêtu de vêtements blancs. Il n'y a plus de condamnation. Certainement que pour nos frères gitans chrétiens, qui sont souvent une population qui sont cataloguées, mises à l'écart, etc., et qu'on considère avec un peu de dédain parce qu'ils n'ont pas les derniers vêtements de chez Zara, ou etc., on les regarde un peu de haut, mais eux, ils disent, mais attendez, moi, j'ai un vêtement blanc. J'ai été revêtu. Est-ce que nous avons cette même conscience? Ou bien est-ce que nous nous glorifions du gilet que votre fille a fabriqué? Hein? C'est ma fille qui l'a fait, celle qui est au fond, là. Elle a choisi les boutons, tout. Est-ce qu'on se glorifie de ça, de ce vêtement-là? Ou bien est-ce qu'on se glorifie de ce vêtement blanc, pur, de sainteté qui m'est donné par Christ? Satan est rejeté au loin. Si nous laissons Dieu accomplir son œuvre en nous, il éloigne Satan de nous pour nous permettre d'être dans une position. Aujourd'hui, on parle beaucoup de posture. Une posture d'enfant de Dieu. Tu es appelé à être dans une position, une posture d'enfant de Dieu, d'héritier de Christ, et non pas de continuer à considérer que tu portes tes échecs, tes choix, ton péché. Christ fait de toi une nouvelle créature. J'ai fait passer au-dessus de toi ton iniquité, je te revais d'habits, de fêtes. L'ange de l'Éternel ensuite dira à Josué, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je fais venir mon serviteur, le germe, et vous allez rentrer dans ce service. Et l'ange de l'Éternel protesta, c'est une traduction que j'aime bien, protesta à Josué, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu fais l'acquis, c'est-à-dire si tu t'appropries la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu auras aussi la garde de mes parvis, et je te donnerai de marcher au milieu de ceux-ci qui se tiennent devant moi. Waouh ! Si tu marches dans mes voies. Être revêtu de sainteté, c'est une chose. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, l'Éternel des armées lui dit, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, voilà ce que tu feras. Tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Ça veut dire que tu es en position d'autorité. Ce n'est pas le pasteur ou les responsables des églises qui ont autorité, c'est toi aussi. Et tu garderas mes parvis. C'est-à-dire que quelque part, tu empêcheras que ceux qui donnent accès à ce qui m'appartient, ils s'y trouvent des choses qui n'ont rien à voir avec mon salut, avec ma gloire. Tu es gardien des parvis de l'Éternel. Waouh ! J'en demandais pas tant, mais c'est quand même bien. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Et je terminerai avec cette dernière phrase qui concerne Josué. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alors je me dis, mais de qui il parle là ? En fait, on est dans le ciel. Et Dieu dit à Josué, voilà, si tu gardes mes commandements, si tu te positionne avec la sainteté qui est la tienne, etc., je te donnerai accès à ceux, un libre accès parmi ceux qui sont ici. En fait, c'est là où se trouve Dieu. Ça veut dire que le souverain sacrificateur, et c'était vraiment son rôle, avait un libre accès à Dieu parce qu'il était considéré comme pur et saint. Waouh ! C'est aussi notre réalité. J'ai un libre accès là-haut. Je crois que j'ai dû envoyer une lettre à l'Élysée dans ma vie. C'était un SDF qui m'avait dit « Je voudrais me demander au chef de l'État ça. » Je dis « Bon. » Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il me dit « Bah, tu ne pourrais pas écrire la lettre ?» Et puis on a envoyé une lettre à l'Élysée. Et je crois que un mois et demi, deux mois après, il a reçu une réponse de Matignon. Bon, c'était descendu d'un cran, mais quand même. Et moi, j'étais étonné. J'ai dit « Ah bon, ils répondent en plus ?» Mais ça m'avait vraiment surpris, un SDF qui demande et dit « Ben voilà, je suis en difficulté. » Il a écrit, bon, on a écrit, je dis « Moi, je ne veux pas. » Et il était heureux parce qu'il avait reçu une réponse en retour. Bon, ça n'a pas solutionné ses problèmes, mais parfois je me dis « Mais on n'a pas conscience de l'accès que nous avons. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui... » C'est-à-dire les anges, les puissances spirituelles, l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même, Dieu le Père, ils sont accessibles 24 heures sur 24 si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres. Est-ce que tu as déjà essayé de cette connexion-là? Il y a vraiment une réalité spirituelle. Le texte de Zacharie s'adresse à la fois à Israël, mais il s'adresse aussi à nous aussi, parce que les principes qui y sont posés sont des principes qui sont valables pour nous aujourd'hui. Je te mets au défi de t'adresser à l'ange de l'Éternel, à Christ aujourd'hui, et à lui dire « Écoute, voilà ce que je vis, ce que je suis. Fais cette expérience-là en rentrant chez toi. Fais cette expérience-là. » Et tu seras étonné de voir que même si Satan était en haut en train de dire « Attends, tu ne vas pas l'écouter lui, tu ne vas pas l'écouter elle, regarde dans quel état elle est, etc. » L'Éternel appliquera les mêmes principes que pour Josué, le souverain sacrificateur, parce que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraiment une parole extraordinaire, qui nous montre et qui nous révèle l'étendue de ta grâce, de ton amour, de ce que tu es. Et aussi, notre Dieu, ce que nous sommes pour toi. Toi, Jésus, tu as payé le prix. Et ta personne, ta vie sur cette terre, c'est le prix que tu as estimé, auquel tu nous as estimés. Cela m'échappe. Mais je désire, nous désirons accepter cette valeur que tu nous accordes. Par ton Esprit Saint, Seigneur, aujourd'hui et maintenant, pour chacun d'entre nous, donne-nous d'accepter, de venir vers toi et de nous laisser revêtir de cette grâce, de cet amour, quels que soient nos ressentis ou nos perceptions. Merci parce que c'est là ton désir le plus profond. Amen.